Micro, microscopie, suite, suite, microscopie, suite. Édouard Zambo.
Je crois qu'à partir du moment où il y a un milieu dans la ville qui ouvre à la culture et à d'autres choses, forcément c'est une ouverture aussi pour les gens qui vont y venir. À la Courneuve, il y avait un cours de théâtre le soir. Donc c'était une ouverture pour les gens de la Courneuve, les jeunes, sur le théâtre et peut-être effectivement leur donner envie de devenir comédien ou d'écrire des textes. Mais c'est une ouverture en tout cas pour ceux qui rencontrent ça d'avoir cette possibilité, moi je trouve.
On se retrouve pour la seconde partie de cette émission consacrée à la place de la culture en banlieue, mais aussi à la place faite à la culture de banlieue. Pour réfléchir autour de ces questions de l'assignation ou de la porosité culturelle attachée au quartier populaire, nous sommes toujours en compagnie de nos trois invités. Mohamed Razan, d'abord écrivain, président du collectif Kiffer la France. Christophe Rauque, metteur en scène et directeur du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Et Marc Hatzfeld, sociologue et auteur d'un essai intitulé « La culture des cités ». Avant de reprendre le fil de notre discussion, je vous propose tout de suite de retourner à la Courneuve, en région parisienne, et plus précisément au centre dramatique de cette ville située à l'entrée du quartier des 4000, l'ancien cinéma L'Étoile, dont nous avons parlé dans la première partie de cette émission, le monument de la Courneuve en quelque sorte. Un lieu de répétition donc qui s'ouvre au public à l'heure du déjeuner, et c'est donc à l'heure du déjeuner que Pauline Mocor est allée à la rencontre de l'équipe du centre dramatique pour leur demander ce que c'est qu'une politique culturelle.
Un gros gaillard une grosse tête.
Je m'appelle Maria Gomez et je suis directrice du Centre dramatique de la Courneuve. Donc on est ici à la Courneuve dans le 93. C'est ici qu'on est depuis 1991 et c'est ici qu'on crée tous les spectacles de la compagnie. Nous sommes un collectif de 6 comédiens et donc nous sommes en ce moment en train de répéter le nouveau spectacle de la compagnie qui s'appelle Jean Lachance de Bertolt Brecht.
C'est un grand honneur, monsieur. Si seulement je savais comment repartir.
D'accord, on va arrêter là.
Nous, nous semblait intéressant de faire découvrir cette pièce-là, ici, aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas connue, et c'est une originalité, et c'est aussi une façon de faire venir un public qui ne connaît pas Brecht.
Vous pensez que cette pièce de Brecht, c'est la meilleure façon d'attirer le public cournevien et du 93 au théâtre ?
Pas forcément, on aurait pu en choisir une autre.
Vos choix de texte, vos choix de spectacle, vous les faites en fonction du public ou vous les faites en fonction de quoi ?
Non, nous les faisons en fonction, premièrement, de nos envies. Ça part d'une envie d'abord. On ne fait pas du théâtre qui va correspondre au désir des Courneviens. On fait d'abord du théâtre à partir de nos désirs. Et on construit les choses à partir de nous. Voilà. Parce que on ne va pas faire que ce que les gens désirent. Ça, ce n'est pas possible. Et on ne va pas se mettre actuellement, nous, compagnie, à faire, par exemple, du rap parce qu'on est en banlieue, parce qu'on est à la Courneuve, parce que c'est à la mode. Je veux dire, nous, on va essayer d'aller au-delà de cette dimension-là, c'est-à-dire de la mode. On va passer par nos désirs à nous.
C'était une belle histoire. Peu importe que la charrette soit partie. Dommage que l'homme soit parti. Maintenant, il ne me reste plus que la vie.
Pierre Constant, j'étais le responsable de la troupe entre 74 et 81.
Dans quel contexte, en fait, le Centre dramatique de Courneuve est né ?
Il est né à un moment, c'était l'après-68. À cette époque, la banlieue nord était une banlieue très prolétaire et où il y avait beaucoup d'usines encore qui fonctionnaient et beaucoup d'usines qui commençaient à fermer, où le chômage commençait déjà à s'inscrire, où les travailleurs émigrés arrivaient et où on supprimait les bidonvilles pour construire les HLM terrifiantes. D'un seul coup, il y a des brassages de population interethniques, etc. Et où là, à ce moment-là, il y avait un groupe de filles, de gars, qui s'intéressaient au théâtre, qui avaient le désir de théâtre, qui étaient dans une école organisée par la mairie. Ces filles, ces garçons, qui la plupart vivaient à la Courneuve ou à Aubervilliers, à Saint-Denis ou aux banlieues autour, ont voulu, parce qu'ils étaient là, dans ce département, consacré leur vie au théâtre. Les acteurs, les actrices n'auraient pas été des gens de la banlieue. Nous aurions sans doute fait un théâtre différent.
Qu'est-ce que ça implique que les comédiens de la compagnie soient issus de la banlieue ?
Ça implique que leurs pensées, pour la plupart, étaient déjà politiquement éveillées. Ils savaient les problèmes que eux avaient vécus et que certains d'entre eux vivaient encore. Ils étaient sur le terrain. Ils savaient de quoi ils parlaient. Automatiquement, cette pensée des acteurs conduisait à une exigence d'avoir un théâtre militant, un théâtre d'action, un théâtre en prise sur le monde, en prise sur le réel. Et je n'ai pas vu un seul spectacle d'eux qui ne soit avec cette ligne, cette pensée directrice, parler du peuple, parler des êtres, parler des problèmes des êtres à travers la métaphore du poète, du théâtre.
Sur des ateliers théâtre avec des stagiaires, on peut leur proposer d'assister à une répétition publique qu'on organise à leur encontre, tout particulièrement. C'est aussi le genre de dispositif qu'on met en place avec les jeunes qui fréquentent les maisons de quartier de la Courneuve, où on peut aussi organiser, on l'a eu fait aussi, des séances où on arrive avec une scène du spectacle qu'on va jouer et on travaille cette scène-là avec les jeunes pendant une heure afin de les sensibiliser au texte qu'on est en train de travailler.
Microscopie.
Je suis Elisabeth Holzleu, donc metteur en scène du spectacle Jean Lachance. Je repense plutôt à des jeunes qui sont venus il n'y a pas longtemps, qui disaient qu'ils sont venus donc à une répétition, et il y a un jeune, un mec là qui disait « Ah mais vous parlez pas de façon naturelle, ça fait bizarre ». Moi je trouve ça super que ça se passe, ça ait lieu. Donc on a pris le temps, moi j'ai pris le temps de lui parler, puis d'autres comédiens aussi, en disant « Mais justement, le théâtre, on essaye d'aller ailleurs, de... » pas forcément être dans une chose quotidienne, justement, de s'échapper, de s'évader ailleurs et d'inventer autre chose que ce que tu vois tous les jours ou que ce qui se passe à la télé ou au cinéma. D'essayer de lui faire comprendre que c'était un art à part, enfin voilà, que c'était autre chose que le cinéma, autre chose que la télé. Donc c'était ça, je trouve ça important.
Alors, Éric Madeleine, donc... animateur socioculturel sur la ville de la Courneuve depuis 20-25 ans. Le Centre dramatique, heureusement, offre aux jeunes et à la population courneuvienne d'avoir des contacts avec d'autres cultures que celles que l'on colle sur la réalité de banlieue, la culture hip-hop, la culture rap, slam et compagnie. Il faut absolument qu'il y ait une diversité culturelle de proposer au public, même si cette, si des fois, ce que fait, ce que représente et ce que monte, met sur scène le Centre dramatique n'est pas, comme on dit, facile d'accès. On sait très bien que les gamins en ressortent forcément enrichis. Ce qui compte, c'est la diversité. Contre la standardisation, il ne faut pas que le jeune ait, je dirais, un éventail trop étroit de ce qui est la réalité culturelle qui est composée de multiples cultures. Je crois qu'il faut absolument qu'on soit le plus ouvert possible et qu'on propose à notre public, moi en tant qu'animateur vis-à-vis de la jeunesse, qu'ils aient la possibilité de s'ouvrir à tout. Pour être acteur de sa vie, il faut être le plus ouvert possible.
Bon ben voilà, merci.
Christophe Roque, est-ce que c'est politique d'être... est-ce que c'est une mission politique au sens noble, au sens strict du terme, de diriger une institution culturelle en banlieue, et le feriez-vous de la même façon ailleurs ?
Je pense qu'avant tout, c'est artistique. Ça devient politique... aussi parce que je pense que c'est complexe et que cette complexité, elle nous enrichit tous. Elle nous demande aussi de prendre position à certains endroits. Donc moi, ce que je retiens un petit peu de ce que j'entends ou de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moi, je ne sais pas très bien quoi faire avec le mot culture. parce que on peut tout mettre, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait de territoire d'expression, Mohamed parlait que tout d'un coup on le cantonnait dans cet endroit de la banlieue, comme on dit, les cultures urbaines. Moi je sais pas travailler avec ça, je travaille avec des artistes. Il y a des artistes de hip-hop, il y a des artistes de danse contemporaine, il y a la danse contemporaine qui enrichit le hip-hop qui va enrichir la danse contemporaine. Voilà. Après, il y a effectivement la culture, c'est ça peut être plein de choses. C'est ce que disent les gamins. Ce monument qui appartient à la ville, à notre ville, notre monument. C'est ce que on fait de la culture, tout ce qui nous construit au fond.
Il a qualifié, c'est la folkloriser.
Je le pense vraiment, oui. Et je crois que c'est la folkloriser, c'est aussi une manière. On est dans le règne de la communication, donc c'est un moyen de trouver à la fois des clients.
C'est justement, quand même. Qu'est-ce qui vient dans une institution culturelle comme le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis?
Nous à Saint-Denis, je voyais les chiffres là il n'y a pas très longtemps. On s'aperçoit qu'il y a 60% des spectateurs qui viennent de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je disais l'autre fois, la programmation est aussi juste la partie immergée de l'iceberg. En dessous, il y a tout ce que le Centre dramatique fabrique. Fait avec la population, fait avec les lycées, les écoles, les associations, tous les liens qu'il crée, le festival jeune public, comment tout d'un coup on essaie d'ouvrir des portes et des fenêtres un petit peu partout pour arriver à faire en sorte que le lieu ne soit plus vécu comme une espèce d'entité comme ça, encore une fois très verticale, très institutionnelle, un petit peu rejetée comme le symbole d'une culture qui n'est pas la nôtre, alors que pour moi, elle n'est pas plus la mienne qu'elle est la vôtre ou la vôtre, Mohamed. C'est ce qu'on en fait aussi d'un théâtre, ce qu'on en fait artistiquement, encore une fois. Moi, je dirige un centre dramatique national, c'est pas une scène municipale, c'est pas une scène conventionnée, ça a été fabriqué dans les années 50, c'est une idéologie, aujourd'hui, elle a tendance à changer, elle bouge, elle est en mouvement. Les centres dramatiques nationaux qui sont en banlieue sont, pour moi, à la tête de ce mouvement, puisqu'ils sont sur des territoires qui sont en mouvement. Donc ils sont obligés de prendre ce mouvement, sinon ils meurent.
Est-ce que vous avez un rôle de découvreur par rapport aux grandes institutions parisiennes, pour aller vite? Est-ce que vous faites émerger des nouvelles choses? Parce que tout le monde s'interroge sur cette culture, sur ce vivier de la culture urbaine. Est-ce que c'est vous qui en êtes les découvreurs? Est-ce que vous donnez la reconnaissance?
Mais je pense que tout le monde redécouvre. Moi, je suis plutôt de la culture du rock. Je suis pas du tout de la culture urbaine, hip-hop, rap. C'est quelque chose qui m'a traversé, qui était pas de ma génération, on va dire. Donc je le découvre, je l'ai découvert, je le redécouvre aujourd'hui. Je vois à quel point la langue, elle peut être travaillée, elle est retravaillée par tous ces artistes qui viennent, et cette énergie dont parlait Marc Hatzfeld qui est toujours présent dans les spectacles ou dans les mots ou les phrases ou les textes que disent les gens. Donc effectivement, on est découvreur, mais on n'est pas plus découvreur que Philippe Mourat, qui a créé les rencontres urbaines de la Villette. Je veux dire, on travaille avec lui. Moi, je pense que c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe, et c'est pour ça que c'est fabuleux, et c'est pour ça que c'est passionnant, qu'on peut pas travailler tout seul. On peut pas se dire que moi, j'ai découvert un tel. De toute façon, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille ensemble. Un centre dramatique national n'a pas la vocation que la même vocation que la compagnie qui est à la Courneuve, ou qu'une scène municipale ou qu'une MJC. Tout ça travaille par des strates. Si on arrive à se tendre la main et à se comprendre, alors effectivement il y a une reconnaissance, il y a une valorisation que le centre dramatique peut donner de par le fait qu'il va offrir une scène à ces artistes-là, mais encore une fois pas à cette culture, à ces artistes.
Mohamed Razan, Christophe Roch parlait de la langue, les critiques les plus aimables avec vous hein, ont invoqué Céline quand vous avez sorti Dit Violent dans cette revendication. Je vous lisais tout à l'heure la quatrième de couverture qui est un peu réductrice et qui vous fâchait. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait reconnaître quelque chose en termes d'expression, en termes de renouvellement de la langue?
La première des choses, c'est d'avoir fait... Vous savez, on fait des tours avec le collectif dans les lycées, etc. On nous invite partout en France. Et il y a un jeune, une fois, qui me dit... Et ça traduit tout, de mon point de vue. C'était un lycée professionnel. Et donc on arrive, ils avaient travaillé un peu sur nos textes et tout ça, on les rencontre, et un jeune me dit, mais ça a été facile pour un robot de quartier d'écrire. Non, ça existe, un robot de quartier qui fait de la littérature.
La preuve.
Voilà, donc déjà, premièrement, c'est ça, c'est de montrer qu'effectivement, il y a une espèce de lutte psychologique contre des barrières intériorisées par ces jeunes-là.
Pour sortir de l'assignation, quoi.
Voilà.
Comme dans le domaine de l'entreprise, comme dans le domaine, voilà, dans tous les domaines. Le domaine culturel n'échappe pas à cette...
C'est, de mon point de vue, ça a tous les niveaux. Hein. Nous, on a pris acte, effectivement, d'un regard méprisant d'une certaine caste qu'on qualifie de caste héritière, quoi, qui détient tous les pouvoirs...
très bourdieusien, comme...
Qui ont la possibilité... Bon, voilà, vous l'inscrivez, Marx ou bourdieusien, si vous voulez. En tout cas, nous, on le vit, quoi. Et on fait cette lecture-là, quoi. Sans pour autant être dans simplement l'indignation, d'où la création du collectif, avec l'idée aussi d'agir, parce qu'on a envie véritablement de travailler au vivre ensemble, quoi. Véritablement. Mais travailler à ce vivre ensemble nécessite de se fâcher avec un certain nombre de gens, que j'ai désigné auparavant comme surnomme les héritiers. Donc la première des fonctions après laquelle je ne courais pas en écrivant, c'est-à-dire moi j'écris parce que j'ai envie d'écrire, c'est une nécessité impérieuse.
Et tout d'un coup vous vous retrouvez porte-drapeau sans l'avoir demandé.
Je peux ne pas me retrouver porte-drapeau, sauf que moi je l'assume. C'est-à-dire que je viens de là d'où je viens, contrairement à Fadel Amara ou Ramayad, qui à un moment ont la possibilité de pouvoir exprimer un certain nombre de choses, se retournent leur veste et trahissent les leurs. C'est triste, mais véritablement triste. Donc se dire, des gens comme nous qui arrivent et ils se saisissent en effet de ce porte-drapeau pour dire les choses telles qu'elles sont, qui n'ont aucune espèce d'ambition personnelle, politique, mais de dire les réalités et de désigner aussi les gens qui sont porteurs de ces réalités-là, eh ben écoutez, nous l'assumons pleinement et on est fiers de l'assumer. Sur le plan particulièrement culturel, moi je trouve que on a un véritable problème dans la possibilité qu'on donne à l'émergence d'une expression, d'un foisonnement culturel et artistique de nos territoires en marge, et de se dire qu'il y a de l'argent public qui doit soutenir la création artistique et culturelle, et que ces quartiers-là n'en voient pas la couleur. N'en voit véritablement pas la couleur, ou alors ils vont le donner effectivement scène nationale ou scène de prestige, qui elles vont remonter pour la 40e fois du Molière ou du Racine, et ils en oublient complètement la création contemporaine de territoires dans lesquels ils sont implantés. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ces gens-là qui ont fait leur preuve, on peut pas leur donner des moyens de les reconnaître, et que la direction régionale à l'action culturelle les reconnaît comme des acteurs culturels? Pourquoi les renvoyer au financement politique de la ville, des financements sociaux?
Justement, hein, l'accès aux subventions, c'est un peu un métier. Et là-dessus, je vous renvoie au prof. Enfin, je vous invite à écouter les propos de Saïd Baïdj. Hein. Il est animateur socioculturel à Mantes-la-Jolie. Il est artiste plasticien. Et pour lui, hein, en gros, pour résumer, on laisse aux banlieusards l'animation. Les professionnels extérieurs, eux, se réservent la culture.
L'institution ne fait pas la culture. C'est ce que j'ai dit à mon directeur. Hein. Je lui dis franchement, quand je vais au marché, il y a plus de culture que dans le centre culturel. Il y a plus de monde et les gens, au moins, ils sont mélangés. Tu vois ? Tu te rends compte qu'aussi, il y a une volonté, il faut que ce soit une volonté politique. Est-ce qu'il y a la mairie, enfin la politique locale, il y a une politique culturelle, comme il y a une politique de la ville, une politique de la jeunesse, non. Il n'y a pas vraiment une volonté politique. Parce qu'eux se sont rendus compte qu'avoir accès à la culture, c'est comprendre, c'est déjà t'organiser, c'est de monter une vraie association. Et quand tu mets une association, tu es en capacité de mettre un contre-pouvoir quand il y a quelque chose qui te dérange. Et ça... Les gens, ils en veulent pas. Il y a une culture en banlieue, c'est les friches. Cette nouvelle mode de bobos, des anciens de Paris, qui ont, parce qu'ils connaissent bien les ficelles de la DRAC et tout, ils arrivent bien à monter des projets bien ficelés. Ils ont cette culture que nous, on n'a pas. Parce que nous, c'est souvent autodidacte, déjà. Et ils sont entre le Val-Fouré et le centre-ville. Là, je m'en suis rendu compte parce que je les ai vus venir. Moi, au départ, j'étais cool, j'étais content. Je me suis dit, tiens, le collectif qui est arrivé là... Donc je leur ai guidés encore dès qu'ils ont eu leur lieu, tiens, ils m'ont zappé. Moi je me suis dit, tiens, ils vont s'appuyer déjà, regarder dans cette cité s'il y a déjà une dynamique artistique. Jamais ils sont venus s'appuyer sur nous, ou nous demander de faire des échanges et tout. Par contre, je les vois, ils ont tout. Ils sont dans tous les programmes. Ils sont voilà. Moi j'ai eu la chance d'aller à Paris, parce que j'ai eu des bons articles. Le Monde, le jour ils m'ont fait un article, je me suis retrouvé à la Villette. J'étais le seul artiste qui est venu comme ça, sans structure, sans rien. Je suis monté d'un palier parce que j'ai appris à connaître la DRAC, tous ces mots-là, la Direction Régionale de l'Action Culturelle. Il y a une culture, mais il y a une culture pour... Il y a des gens maintenant qui viennent gratter le peu qui reste. Ils partagent même pas. Et c'est des gens qui se disent culturels. Mais quand tu te rends compte que la contrepartie, c'était d'embaucher des gens du quartier, et qu'il n'y en a pas, ça fait mal au cœur, quoi.
Marc Asfeld, quelle est la place de la politique de la ville dans la culture des cités ?
Oh ben ils l'ont bien dit, la place de la politique de la ville. La politique de la ville, elle navigue à la frontière de la culture... la culture savante, de la culture populaire et de la charité culturelle pour essayer de produire ce qu'on appelle le socioculturel. Bon, ça fonctionne pas, on le sait, ça fonctionne pas. C'est de la production culturelle au rabais. Ça fait assez longtemps qu'on le dit, ça fait 30 ans qu'on se plaint de la chose. Je comprends l'exaspération de Mohamed Rezal, je comprends l'exaspération des jeunes de tout à l'heure. Ceci dit, moi je suis quand même assez attaché à l'idée qu'il existe des cultures qui viennent des milieux populaires, hein, qui en jaillissent et qui ont une particularité. On en a parlé tout à l'heure. Et...
Est-ce que c'est à la mode aujourd'hui ?
Oh, je ne suis pas sûr que ce soit à la mode. Je pense que ça peut arriver à la mode, mais c'est très passager. Hein. Vous savez, la reconnaissance de la culture populaire, elle est à la mesure de la reconnaissance d'une part de la culture et d'autre part des milieux populaires. Or, pour l'instant, les milieux populaires, ils n'ont pas bonne presse. Hein. Ils ne sont pas estimés ni dans le monde politique, ni dans le monde social, ni dans le monde journalistique. Ils sont pour l'instant plutôt malmenés. Mais pour revenir à votre question sur la politique de la ville, elle parvient quelquefois, de façon marginale, à repérer ce qui n'est pas effectivement le boulot de l'institution, à repérer sur place, c'est-à-dire à partir d'un complexe culturel qui comprend pas seulement l'expression artistique de littérature, de théâtre, de musique ou de danse, mais à partir d'une complexité culturelle qui comprend la calligraphie, qui comprend le conte, qui comprend la façon de parler, qui comprend la gastronomie, qui comprend les modes vestimentaires propres au milieu populaire, qui comprend tout cela. À faire émerger donc des formes originales et qui méritent l'intérêt de tout le monde. Et c'est par exemple la découverte du Smurf sur le carreau des Halles ou devant l'Opéra Nouvelle à Lyon, ou bien la découverte des taggers que je trouve des grands artistes qui sont des gens qui inscrivent sauvagement leur marque sur les bords des voies ferrées et d'autres. Et donc, ce qu'on appelle culture populaire et un peu le mérite de la politique de la ville, c'est de quelquefois, de façon très très maladroite, et à travers ce prisme qui est complètement déformant du socioculturel, faire émerger, faire reconnaître, faire accepter des échanges avec ces modes de création populaire.
Est-ce que vous ne croyez pas que la politique de la ville participe de ce que vous appelez l'unicisme dans votre essai ? Si j'ai bien compris, l'unicisme, en gros, c'est de dire que en disant qu'il y a une politique des cités, on risque de réduire les habitants à un collectif et non plus à nier leur individualité, quoi.
Bien sûr, c'est le risque, hein, et forcément elle y est tombée. Ceci dit, moi je fais partie des gens qui sont un peu prudents dans la critique de la politique de la ville, parce que je ne sais pas ce qui serait parvenu si elle n'avait pas existé. Et malgré tout, il y a eu des transferts, pas seulement d'argent et de fonds, mais d'énergie, et aussi d'estime qui sont produits à cette occasion-là, qui font que l'un dans l'autre, on est moins malmené qu'on le serait si elle n'avait pas existé, quoi.
Globalement positif, diriez-vous?
Oh, je ne sais pas si c'est globalement positif. De toute façon, c'est tellement... les détériorations sont tellement importantes maintenant que je ne peux pas dire globalement positif, mais je trouve que ce n'est pas un acteur culturel principal, la politique de la ville. Je pense que les cultures populaires, dans leur globalité, elles émergent de toute façon. Jaillissent. Elles ont une puissance de feu telle que on ne peut pas les rater si on regarde, si on est attentif, si on a d'estime pour les gens qui vivent de cette façon-là.
Comment expliquez-vous l'engouement décrit par Culture France pour la culture populaire française à l'étranger plus qu'en France ?
Plus à l'étranger qu'en France, c'est parce qu'en France, on est particulièrement... je crois qu'on est dans une période sombre en France, sur le plan culturel. On est dans une période un petit peu malheureuse. Alors, on n'arrive pas à reconnaître nos cultures populaires. J'espère que ça passera, j'espère qu'on sortira de cette période. Mais je pense que pour qu'on les reconnaît ailleurs, c'est parce qu'elles portent de l'enthousiasme culturel. Je veux dire, il se passe des choses. Elle est créative, elle est inventive. Dans la tente qui est réservée aux slameurs le vendredi soir à Saint-Denis, il y a quelquefois des slameurs qui sont d'une telle créativité métaphorique, d'une telle inventivité poétique, que c'est ça qui fait que ça fonctionne, que ça marche. Il suffit d'aller les écouter quelquefois. Quelqu'un qui est sensible au langage, et qui est ouvert à une diversité de langage, et bien peut-être qu'enthousiaste à l'audition de slammer du vendredi soir à Saint-Denis sous la tente.
Est-ce qu'il y a un caractère revendicatif politique dans la culture des cités, Marc Hetzfeld ?
Oui, je crois.
C'est intrinsèque.
Je dirais pas c'est intrinsèque, parce que tout le monde n'est pas revendicatif.
Il y a une conscience politique supérieure au reste, c'est ça ?
Soyons prudents. Parmi beaucoup d'artistes de banlieue qui s'expriment sur une scène plus large que la leur, que donc le milieu de banlieue, il y a une conscience politique, il y a une urgence de dire en tout cas. Il y a une urgence de dire, de parler et de se faire reconnaître et de se faire accepter.
Si je pouvais juste revenir un peu en arrière sur la politique de la ville, le vrai problème, il n'est pas à ce que la politique de la ville fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est qu'à la base, il y a des mécanismes d'inégalité qui sont prégnants. La politique de la ville, on l'apprend. À défaut de n'avoir l'égalité, on veut bien ce peu-là, comme la discrimination positive, on l'apprend à défaut.
Mohamed Razan, merci. Christophe Roque, Marc Hetzfeld, merci de votre visite dans le studio de Microscopie. Alors je rappelle vos ouvrages respectifs très vite. Marc Hetzfeld, c'est aux éditions Autrement et c'est un essai intitulé La culture des cités, une énergie positive. Christophe Roque, c'est sur la scène du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis que l'on peut voir votre programmation finalement. Bientôt un festival aussi avec le printemps.
Oui, Ville. Oui. 4 spectacles.
Plus de renseignements sur le site du théâtre, c'est
www.theatregerardphilippe.com.
Mohamed Razan, alors c'est en ligne sur internet, c'est sur le site du collectif Qui fait la France, c'est quifaitlafrance.com en un seul mot, mais c'est aussi en librairie avec l'ouvrage collectif Chronique d'une société annoncée, ça c'est chez Stock, et puis c'est avec votre roman Dit violent, ça c'est chez Gallimard. Des références que de toute façon vous retrouverez sur la page de Microscopie, sur le site de RFI, www.rfi.fr. Merci de votre attention, n'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos réactions ou questions sur notre adresse électronique microscopie@rfi.fr. et là dans quelques poignées de secondes vous retrouvez l'ensemble des infos du monde grâce à un journal complet de la rédaction d'RFI. Bonne semaine à tous. Au revoir.